Une autre étude sur le phénomène des commotions cérébrales, tous les parents qui ont des enfants qui font la pratique du sport, puis des fois c'est pas mal plus large que ça, des fois c'est dans le cours d'école, là, je vous parle par expérience, moi mon deuxième a subi deux commotions puis dans le cours d'école. Fait que tu sais, on peut prendre toutes les précautions qu'on veut dans la pratique des sports, puis ça arrive des fois où tu l'attends pas. Mais l'étude est vraiment intéressante. 450 joueurs de la Ligue canadienne de football, avec l'appui de la Ligue et de l'Association des joueurs, qui ont rempli anonymement des questionnaires avant la saison 2016. L'étude a été réalisée par le docteur Scott Delaney de l'Université McGill. Et les conclusions sont fort intéressantes. Nos deux invités parlent en connaissance de cause. Un est professeur à l'Université de Montréal et se prononce publiquement régulièrement sur le phénomène des commotions, lui-même ayant réalisé des études là-dessus, le docteur Dave Ellenberg. Monsieur Ellenberg, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et Bruno Eppel, notre Bruno. Bonsoir, Bruno.
Salut, bonsoir.
Et dans ce que révèle cette étude-là, c'est que les joueurs de football, particulièrement dans la Ligue canadienne, peut-être à cause des conditions de travail puis des situations contractuelles, on n'est pas dans des paramètres de la Ligue nationale de hockey ou encore peut-être de la NFL. Puis même la NFL, là, je parle pas en connaissance de cause tant que ça, mais la Ligue nationale, oui. Bruno, toi, tu l'as vécu. Puis j'aimerais ça que tu racontes aux auditeurs ce que tu m'as peut-être déjà raconté dans le passé. Comment tu as vécu, toi, le phénomène des commotions cérébrales? Puis je pense qu'il y en a une que tu n'avais pas dévoilée.
Ben oui, c'est ça. Et quand j'ai lu l'article ce matin, c'est exactement à ce à quoi j'ai pensé. J'ai dit, ah, c'est dommage parce que, faut dire, moi, c'était en 1997. Et je me disais, peut-être qu'en 2015, avec ce qu'on connaît sur les commotions cérébrales et l'éducation qu'on a eue là-dessus, ça se serait modifié. Mais la réalité, c'est que ça semble encore quelque chose qu'on tente, en tant que joueur, de cacher. Et moi, c'est exactement ce qui est arrivé au camp d'entraînement. Mon premier camp d'entraînement des Alouettes en 97. J'ai fait une commotion. Il faut le dire, là, une commotion comme on a vu Tyrod Taylor subir cette semaine, ça, c'est pas facile. Tu peux pas cacher ça parce que ça arrive, tu tombes sur le dos, les yeux tournent à l'envers, puis tu tombes au sol, puis tu bouges plus. Et là, tout le monde sait que tu as eu une commotion.
Le quart des Bills de Buffalo?
Oui, je parle des Bills de Buffalo. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, la commotion que j'avais subie, c'était en frappant un gars, puis en le mettant sur le dos. Tu comprends? Et là, tout le monde avait réagi, me saute dessus, c'est beau Bruno, beau jeu. Et moi, je m'en retourne sur les lignes de côté. Puis là, il y avait des parties de l'écran, de mon champ de vision qui manquaient là, quand je regardais autour de moi. Puis je me disais, aïe, aïe, ça va revenir. Là, je me frottais les yeux en me disant, en frottant mes yeux, ça va revenir. C'est jamais revenu. Et dans ce temps-là, en 97, je me suis dit, ah, regarde, je vais juste attendre que ça passe. Et je n'en ai jamais parlé. Puis ça, on est allé dîner après ça, puis j'ai été manger, puis j'ai vomi. À mon dîner, j'ai un mal de tête, puis je suis allé dans ma chambre, puis je n'ai jamais parlé à aucun des médecins de cette équipe-là, aucun des physiothérapeutes, et je suis retourné au jeu le lendemain, puis j'ai fait la saison au complet, et maintenant, regarde, aujourd'hui, avec ce que je sais, c'est sûr que je l'aurais dit, mais à ce moment-là, c'était comme, ça va passer, ça va être correct, de toute façon, si je le dis, là, ça se peut que je puisse pas pratiquer, je pratique pas, je ferai pas l'équipe, c'était mon camp recrue, tu sais, tu comprends? Fait que je trouve ça dommage qu'en 2015, on pense encore comme ça, malheureusement.
C'est vrai que le sujet était moins documenté à ton époque, à l'époque où tu l'as vécu. Il reste que tu étais très conscient que ça allait pas, là, que tu filais pas
non,
le normal.
Je savais que j'avais fait une commotion et j'ai choisi de ne pas le dire. Aujourd'hui, je parle de cette histoire-là à mon gars, puis je lui dis exactement de faire le contraire de ce que j'ai fait. Là.
Et je vais juste révéler, avant de passer la parole et de poser une question à M. Ellenberg, c'est que donc l'étude a été réalisée auprès de 454 joueurs, anonymement, ça c'est intéressant, et on y a découvert que 23,4% des joueurs de la Ligue canadienne qui ont participé à ça croyaient avoir subi une commotion en 2015, pendant la saison 2015. Il y en a 82,1% de ce groupe de joueurs-là qui n'a jamais cherché, comme toi, Bruno, à obtenir de traitement ou faire de suivi là-dessus. Dr. Ellenberg, Dave Ellenberg, donc cette étude-là, pour vous, puis le cas personnel que Bruno nous livre en ondes ce soir, c'est du familier, c'est pas mal comme ça que ça se passe, les commotions?
C'est, malheureusement, oui, c'est du familier et on peut avoir du mal à croire hein, qu'encore aujourd'hui, en 2015, avec le fait que les médias parlent beaucoup maintenant des commotions cérébrales, que les gens sont éduqués, comme Bruno le faisait savoir, aujourd'hui, les athlètes connaissent ça et dans l'étude également, les chercheurs Scott Delaney et son équipe documentent et rapportent clairement que les athlètes connaissent les commotions cérébrales, reconnaissent les symptômes, savent aussi que c'est quelque chose qui est grave. Mais malgré cela, hein, on en a 80% qui vont cacher leurs symptômes. Pour moi, ça lance un message clair. Et comme je l'ai déjà dit, ça vient appuyer cela, c'est que le message ne passe pas encore tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle d'athlètes professionnels, mais une année avant cette étude, Scott Delaney a publié un papier ou une recherche sur des athlètes étudiants et avec les mêmes chiffres, donc des étudiants universitaires. Donc, tant chez les plus jeunes, chez les amateurs que chez les professionnels, on cache encore la commotion cérébrale. Ce qui est aussi important, c'est que le 20% des athlètes qui ont signalé leurs symptômes, qui ont rapporté leur commotion, l'étude démontre que seulement 6% d'entre eux sont réellement allés chercher de l'aide médicale par après.
C'est vraiment très, très minime comme pourcentage.
C'est minime,
6 athlètes sur 100.
Ouais.
Et donc, c'est probablement de votre point de vue, vous qui avez travaillé beaucoup, beaucoup à sensibiliser la population, décevant. Puis en même temps, vous faites dire des fois, vous faites des gros plats pour rien.
Absolument.
Vous le faites dire encore?
Oui, oui, encore. On l'entend. Et ça vient de tout le monde. Ça peut venir des jeunes, ça peut venir des parents, ça peut venir des coachs. Et à l'inverse, ces mêmes personnes-là, il y a d'autres coachs prennent ça à cœur, font plein de choses. Vous savez, c'est la géométrie variable. Hein? C'est tout le monde a un rôle à jouer et vraiment, ça dépend du contexte, du jeu, des gens, de l'éducation. Et comme il est noté dans cet article-là, où il est suggéré que un athlète sur deux qui a subi donc une commotion mais qui ne la rapporte pas, 50% disent qu'ils ne l'ont pas rapporté parce que finalement ils pensent qu'une commotion cérébrale c'est pas réellement grave.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on suggère, Monsieur Delaney de McGill suggère que peut-être on pourrait trouver l'équivalent en anglais, mais si on appelait ça blessure au cerveau plutôt que commotion cérébrale, ça saisirait davantage. Tu es d'accord avec ça, Bruno? Tu penses-tu que c'est, on utilise blessure au cerveau, c'est oups, ça capte davantage son attention?
Parce que je parlais avec Mathieu Proulx pendant que je lisais cet article-là, j'étais avec lui aujourd'hui. Puis quand j'ai lu ça, j'ai dit, d'une certaine façon, il n'y a pas de tort. Parce que quand je l'ai lu, puis lui, il l'a écrit au féminin, elle a une blessure au cerveau. J'ai dit, imagine-toi si c'était ça, là. Elle a eu une blessure au cerveau. On se casserait même pas la tête de dire cette personne-là peut continuer à faire le sport qu'elle est en train de pratiquer. Mais une commotion, vu que depuis des années, c'est banalisé, on dirait que le message passe moins. Puis c'est malheureux, mais c'est la vérité.
Êtes-vous d'accord ou aimez-vous la suggestion? Pensez-vous à changer de vocabulaire pour en parler, M. Lemberg?
Écoutez, on doit faire quelque chose pour sensibiliser les gens. Si ça passe par un changement de terme, je crois qu'il faudra aller là. Il y a des études à faire dans mon laboratoire, dans d'autres laboratoires, pour comprendre justement pourquoi on arrive avec de tels chiffres. Mais une autre chose aussi qui me saisit un peu, c'est on sait maintenant que ces équipes-là ont des spotters. Hein? Mm-hmm. Et malgré le fait que certaines commotions, comme Bruno l'a mentionné, sont un peu plus difficiles à déceler, je trouve ça surprenant que autant de commotions passent inaperçues par les spotters. Je trouve ça surprenant aussi quand on dit que 20% des athlètes qui le rapportent, seulement 6% voient un médecin. Mais ils sont où les médecins de l'équipe?
J'irais jusqu'à dire, là, pour appuyer le point de docteur, c'est que la réalité, c'est que ce serait important, quand il y a un contact à la tête là entre deux joueurs sur un terrain de football qui est violent, qu'on qualifie de violent, ça devrait quasiment être automatique. Deux casse-à-casse, un casse-à-casse violent de deux personnes, ça devrait être automatique. Les deux joueurs devraient être évalués parce que c'est pas vrai que c'est tout le temps celui qui a tombé sur le dos, qui a subi le pire du choc. C'est quand même dur à expliquer ce que je dis, mais moi, pour l'avoir vécu...
Ah non, je le sais. Même au hockey, des fois, tu donnes la mise en échec par orgueil, tu démontreras pas, mais si l'autre, il t'attendait puis il restait bien planté, c'est toi qui vas avoir le contre-coup des fois. Et c'est bien traite en ce sens-là. Mais là, il y a toujours la situation du fait que, exemple, prends le match universitaire hier, la finale, là, à un moment donné, le corps arrière qui arrive, le gars qui arrive d'Hawaï, qui arrive en deuxième demi, à un moment donné, il fonce tête première dans le tas. Je sais pas si tu te rappelles.
Je me rappelle exactement du jeu que tu parles.
Bon, il fonce.
C'est important d'aller chercher un premier jeu avec ça.
Exactement. Bon, il se relève comme si de rien n'était, mais mettons que quelqu'un décide, hey, c'est quoi la tête? Là, c'est le gars qui est hot, là, t'en vas gagner le championnat national.
Ouais, c'est ça.
Là, ben, c'est là que tout le monde.
Cam Newton, c'est arrivé cette semaine, là, dimanche. Il a frappé un mur, là, carrément. Là. Il a arrêté d'un trait. Là, il a fait à sa mère qu'il avait une graine dans l'œil. Il a pas été capable de se rendre au banc sans mettre son genou à terre. Ils l'ont rentré dans la tente, puis il est revenu dans le match, parce que c'était un match important.
C'est là qu'il y a des conflits d'intérêts. Hein. Vous savez, il faut se rappeler, il ne faut pas toujours pointer. Puis l'étude, malheureusement, pointe un peu les athlètes. Mais tu sais, l'athlète, il est sur l'adrénaline du jeu. Il est dans le vif du moment. Des fois, il y a la chaleur, plein de choses. L'athlète ne va pas nécessairement ressentir les symptômes au moment de l'impact. Puis ils sont aussi conditionnés pour prendre les coups. Mais je crois que c'est l'équipe qui entoure, qui encadre les athlètes qui a un rôle à jouer.
Mais ouais, parce que tu ne veux pas laisser tomber ton équipe.
Exactement. Puis tu veux protéger les athlètes d'eux-mêmes. Puis là, même l'athlète, des fois, va être en Moses après le gars qui veut l'enlever du match. Mais intéressante discussion. M. Lindbergh, merci beaucoup d'être toujours disponible pour en parler pour nous, aux amateurs de sport. C'est bien apprécié.
Merci à vous.
À une prochaine. Bruno, je te garde une petite minute de plus, si tu me permets. Parce que Puisque j'ai fait allusion finale universitaire, m'a emprunté les mots de Nick Saban après la victoire. Was that a good football game? Or comment il dit ça? Or not? Hein? C'était-tu tout un. Hein? C'était divertissant.
Quel spectacle, Mario. Absolument hallucinant. C'est juste dommage que c'était présenté un lundi et que ça a fini à minuit 30 du matin ou presque. Là.
Ouais.
C'est évidemment, le monde doit travailler le lendemain. Fait qu'il y en a peut-être plusieurs qui n'ont pas vu cette fin de match-là, mais c'était du bonbon. Là.
Aïe, aïe, aïe.
Écoute, t'as les deux meilleures équipes au pays, puis ça finit par être des recrues qui jouaient au high school l'année passée, qui gagnent ce match-là pour Alabama. Le receveur, le corps arrière et le porteur de ballon. C'est incroyable.
le gars le plus soulageant matin, on le sait c'est qui, hein? C'est le batteur d'Alabama qui rate deux placements, dont le placement qui était pour donner la victoire à son équipe en fin de match. Finalement, il rate en servant en prolongation.
Parce que je me pose encore la question... Qu'est-ce que Harris, le numéro 34 d'Alabama, faisait aller parler au batteur juste avant ce kick-là? Quand on a vu ça à l'écran, pour ceux qui connaissent le football, là, quand un gars s'apprête à aller faire un botté, tu le sens pas de sa zone. C'est exactement ce que
comme un pote de 5 piastres, mon Bruno. T'en sais à toi. Bye-bye. Bonne soirée. Bye, on revient tout de suite.